Vous écoutez France Musique.
Merci Rodolphe Bruno Boulmier.
Et à dimanche prochain.
Leur belle saison. Nicolas Lafitte et Jean-Baptiste Urbain.
J'ai tout de suite accroché avec cette personnalité qui est solaire, éclaboussant un peu, enfin vraiment pleine de vie, très dynamique. Ça marchait très bien.
Quand on est quatre et qu'on est dans un espace resserré pour répéter, la proximité fait que parfois le facteur humain, il y a des explosions.
Bienvenue et bonjour à tous. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jean-Baptiste.
Ils sont nés dans les années 80, voire 90, tout juste sortis pour la plupart du CNSM de Paris, le Conservatoire National Supérieur de Musique, mais ils ont déjà un sacré palmarès derrière eux, des concerts dans les plus grandes salles, un ou plusieurs disques, sans compter leurs enregistrements devant les micros de France Musique. Tout cet été, ce sont ces musiciens, aux talents certains, et auxquels nous croyons que nous vous proposons de mieux connaître.
Et cette jeune femme que nous recevons aujourd'hui dans notre émission, Jean-Baptiste, a plus d'un tour dans son sac et un sacré caractère. Solaire, vivante, pétillante, elle navigue entre les répertoires, passant du tango à la musique russe sans jamais s'en mêler les pinceaux, ou plutôt, devrais-je dire, sans jamais s'en mêler les doigts. Comme elle le dit elle-même, les choses se sont bien enchaînées depuis sa sortie du CNSM. Concert en soliste, musique de chambre, et surtout le public l'a découverte avec l'ensemble Spiritango, dont le dernier disque paru l'an dernier a été très remarqué. Aujourd'hui, elle vient nous raconter son parcours, son début de carrière, son disque solo à venir, ses projets sur scène et ses passions. C'est la belle saison de la pianiste Fanny Azzurro.
Thank you.
Bonjour Fanny Azzurro.
Bonjour.
Azzurro, on dit Azzurro. À l'italienne.
Oui, Azzurro.
Vous préférez?
Je préfère.
On vient de vous entendre dans l'introduction d'Adios Nonino d'Astor Piazzolla. C'est un extrait du disque paru l'an dernier avec votre ensemble, Spirit Tango Quartet, ensemble avec lequel donc, vous avez obtenu un prix de musique de chambre au CNSM de Paris. On l'évoquait il y a quelques minutes, ensemble avec lequel vous jouez régulièrement en France et ailleurs. Et puis toute seule, cette fois, on pourra vous entendre dans quelques jours sur votre premier disque récital, Russian Impulse. C'est son titre consacré à la musique russe. Donc, alors c'est ça la belle saison, c'est quand tout s'enchaîne avec succès.
C'est la première année où j'ai de la chance d'avoir autant de concerts et tout s'enchaîne, comme vous dites, très vite, des fois trop vite. Mais voilà, j'en profite parce que ça va peut-être pas durer tout le temps et j'enchaîne les scènes avec le groupe et en solo. J'essaye de trouver un rythme, quand même un équilibre malgré cet enchaînement de concerts, un équilibre.
Quel regard vous portez sur ces mois qui viennent de passé pour vous?
Plein de rencontres humaines riches et intenses avec le public, avec mon groupe, le Spirit Tango, avec les organisateurs de concerts, avec Boris Petrouchansky, mon professeur à l'Académie d'Imola actuelle.
Et votre meilleur souvenir qui vient comme ça spontanément en tête?
Bon, mon plus grand souvenir peut-être de l'année, c'était en janvier, l'enregistrement de mon disque à la ferme de Villefavard, qui est un lieu assez magique où j'ai pu trouver l'énergie qu'il fallait pour enregistrer ce disque, Russian Impulse, des œuvres de Prokofiev, Rachmaninov et Capucine.
Ce disque, il sort le 9 septembre, ça fait quoi juste de voir arriver l'objet dans ses mains, son premier disque, son premier CD pour reprendre le titre de l'émission
peut-être.
De Gaël Le Gallic.
C'est mon premier bébé peut-être.
Sacrément.
premier disque en piano solo, ça fait quelque chose, j'ai en même temps hâte qu'il sorte et en même temps une appréhension par rapport aux critiques parce que je me mets à nu et l'objectif de la sortie du disque c'est aussi d'enchaîner ensuite de plus en plus de concerts en solo.
Le Spirit Tango Quartet, c'est un ensemble, un groupe qui marche bien, Nicolas le disait, vous produisez souvent sur de nombreuses scènes, il y a eu le disque. C'est quoi aujourd'hui Spirit Tango dans votre vie? Est-ce que c'est une respiration, une colonne vertébrale de votre carrière, une façon peut-être de se démarquer aussi des autres pianistes?
Oui, je pense que c'est une colonne vertébrale, ça c'est sûr que sans concert en musique de chambre, je pense que j'arriverai pas à trouver mon équilibre. Donc pour moi, avoir une carrière solo et une carrière de chambriste, c'est très important pour moi aujourd'hui.
La plupart des jeunes artistes qu'on reçoit ici sur France Musique cet été dans leur belle saison sont issus de familles de musiciens. Est-ce que c'est votre cas à vous, Fanny Azzurro?
Alors mes parents ne sont pas musiciens, mais ma grand-mère maternelle faisait du piano.
Professionnellement?
Non, en amateur. Elle a commencé assez tard, mais mes parents n'étaient pas musiciens, mais je pense que ma mère avait cette envie de nous mettre, moi et mon frère, mon plus jeune frère, qui a 2 ans de plus que moi, à la musique. Et donc j'ai un frère corniste.
Professionnel, pour le coup.
Professionnel, à Stuttgart, Philharmoniker, orchestra.
Votre frère Pierre, qui est donc corniste à l'Orchestre Philharmonique de Stuttgart, eh bien d'Allemagne, Fanny Azzurro, il nous a répondu à la question suivante. Comment définir sa sœur Fanny en quelques adjectifs?
Très dynamique, engagée, passionnée, oui, je pourrais dire comme ça. Et un fort caractère, ce qui n'était pas toujours facile entre frère et sœur, mais un fort caractère, quoi, oui. Faire la musique ensemble entre frères et sœurs, c'est pas tout le temps facile parce que finalement c'est dur d'être objectif après. Vous savez que ma femme est pianiste aussi et maintenant je joue plutôt avec ma femme parce qu'on est en Allemagne et que c'est peut-être ça marche mieux avec elle parce que finalement frères et sœurs avec 2 ans d'écart, c'était toujours le chat et la souris un peu.
Alors la parole est à la sœur, vous êtes plutôt, vous êtes plutôt le chat ou la souris?
Le chat, peut-être.
Vous avez le droit de vous défendre.
Mais c'est vrai qu'avec mon frère, bon, ce qui était génial, c'est pendant toute notre jeunesse où on travaillait l'instrument tous les jours et où c'était une sorte d'émulation entre frères et sœurs. Et moi, ce que je voulais, c'est arriver à être aussi forte. Je pense que mon frère, en tout cas, voilà, on ne faisait pas le même instrument, mais je voulais être à son niveau et je voulais que mes parents soient fiers de moi, comme tout enfant, je pense. Et peut-être ça a changé. On s'est un petit peu éloigné avec mon frère, mais je pense qu'on va vite se rapprocher. C'est-à-dire que lui, il est en Allemagne, donc on se voit beaucoup moins souvent que quand on était dans la même maison, bien sûr. Et moi, j'ai quand même le souhait dans mon cœur de sortir un disque. Enfin, je ne sais pas s'il le sait, mais voilà, si tu m'écoutes, Pierre. Voilà, de sortir un disque dans les années qui arrivent autour, avec le trio de Brahms pour violon, piano et cor.
Et après coup, comment vous expliquez que, n'ayant pas une famille de musiciens, n'ayant pas des parents musiciens, votre frère et vous-même soyez devenus professionnels ? Vous avez été poussé, comme ça arrive parfois, ou
alors,
qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors récemment,
allongez-vous sur le divan.
Récemment, je suis allée poser une question à ma mère. Je l'ai appelée et je lui ai demandé, écoute maman, dis-moi... qui a voulu que je fasse du piano ? Parce que moi, dans ma tête, j'avais aucun souvenir. D'abord, elle a dit, bon, écoute, je sais pas. J'ai insisté et puis elle a fini par dire, oui, je pense que c'est moi qui t'ai poussée à faire du piano. Au départ, en tout cas, qui t'ai poussée vers cet instrument. Par contre, c'est vrai qu'à la suite, ce que je voulais... Enfin, j'ai été assez autonome et j'ai eu aucune pression de mes parents. D'ailleurs, en fait, j'ai commencé à donner des concerts assez tard, hein, même à passer des concours internationaux assez tard. Donc, j'avais aucune pression de mes parents. Et le choix s'est fait, c'était un choix vraiment personnel. Et pour mon frère, je pense que c'est pareil. C'était juste le goût du travail, le goût que mes parents aussi avaient à l'époque et qu'ils nous ont donné.
Bon, je crois qu'elle a bien fait d'insister, votre mère, pour que vous fassiez du piano. On va écouter un extrait de votre premier disque en solo à paraître. Prokofiev, un extrait de la 6e sonate opus 82, sous vos doigts, Fanny Azzurro. Alors nous parlions, juste avant cet extrait, du choix de l'instrument. Donc vous êtes toute petite, et après comment ça se passe pour aller étudier ?
Alors comment ça se passe ? Tout de suite mes parents m'ont acheté un piano droit. Mmh. J'ai commencé à Saint-Rémy-de-Provence, et en fait mon frère est parti étudier à Montpellier, donc ça faisait quand même une heure de distance en voiture. Il est parti étudier là-bas parce qu'il y avait un professeur qui s'appelle Éric Sombré, très énergique, et qui avait ouvert une classe au conservatoire de Montpellier, une classe de cor. Et donc, deux ans après, à l'âge de 7-8 ans, j'ai suivi mon frère, j'ai présenté le concours d'entrée au conservatoire régional de Montpellier, et j'ai été admise. Puis après, j'ai continué, j'ai étudié là-bas pendant 10 ans. C'était assez dur, mais j'avais un prof José Arrué, un prof particulier qui m'a beaucoup apporté.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez déjà l'idée d'une carrière professionnelle dans le piano ou c'est venu plus tard ?
Alors, j'ai en mémoire un souvenir, une anecdote. C'était avec un copain, en fait. Voilà, on passait des après-midi ensemble de temps en temps avec un groupe d'amis. Et d'ailleurs, Frédéric, si tu m'entends, tu me dois 50 francs. En fait, on avait parié 50 francs. Lui disait que je n'allais pas devenir pianiste. Et moi, je lui disais, donc j'avais 8-9 ans, je lui disais, mais écoute Frédéric, si j'ai vraiment envie d'être pianiste, tu verras.
Eh ben, il voilà, vous les doit bien, là, les 50.
Voilà. Et
c'est devenu 7,50 €.
Ouais. Plutôt 50 euros maintenant avec l'inflation. Hein. Voilà.
Du coup, pour devenir pianiste, il y a un moment où il faut monter à Paris et tenter le CNSM. Oui. Comment ça se passe, ça ?
Alors, c'était difficile parce que j'ai présenté la première année le CNSM. Donc, j'ai présenté plusieurs fois l'entrée. Et la première année, j'étais encore en... Voilà, c'était l'année du bac. Et j'ai décidé de me mettre au CNED, donc les cours par correspondance, pour pouvoir travailler suffisamment le piano. Puisque j'étais en parcours littéraire et que ça demandait quand même beaucoup de temps d'aller au lycée. Et j'avais le soutien quand même de ma mère pour préparer le bac en parallèle. Donc j'ai réussi à gérer. Mais c'est vrai que c'était très difficile.
D'un seul coup, c'est la grande vie quand même. On monte à Paris.
On monte à Paris. Et j'étais pas seule. J'étais avec mon frère, en fait, hein, la première année où je suis montée à Paris, au CNR de Paris. Et j'étais avec mon frère pendant 2 ans. Donc ça m'a quand même permis de résister à la folie parisienne.
On va écouter un grand monsieur du piano et un grand pédagogue. Bon nombre de pianistes français ont appris avec lui. C'est Dominique Merlet.
Mon premier contact avec elle a été au CNSM. J'avais été invité pour des masterclass. J'ai entendu une dizaine de jeunes pianistes. Et il y en a deux qui sortaient nettement du lot. C'était Charlotte Coulot, mais qui est un tempérament beaucoup plus réservé, intérieur, très 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 différent. Et Fanny, avec ce côté solaire, éclaboussant un peu, enfin vraiment pleine de vie, très dynamique. Moi, j'ai tout de suite accroché avec cette personnalité qui est très vive. Enfin, elle est curieuse, elle s'intéresse à beaucoup de musique et elle réagissait très très vite à tout ce que je lui suggérais. Ça marchait très bien.
Et vous, Fanny, vous gardez quel souvenir de l'enseignement de Dominique Merlet ?
Alors déjà, la rencontre avec un homme d'une gentillesse et puis d'un professionnalisme, enfin, d'une gentillesse incroyable, c'était... voilà, en fait, après cette masterclass, j'ai voulu aller étudier à l'Académie de Salzbourg l'été suivant. Grâce au soutien du mécénat musical Société Générale, j'ai pu aboutir ce projet. Et puis, c'était 10 jours de rêve avec... voilà, c'était plus que les cours. En fait, on partageait des moments forts en dehors aussi des cours. Donc, c'était une rencontre humaine avant tout.
Vous le voyez toujours, Dominique Merlet ? Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, que vous consultez pour monter un programme ou pour votre disque, par exemple, qui va paraître ?
J'aimerais le revoir, mais c'est vrai qu'actuellement, je me suis concentrée avec l'enseignement d'un professeur, Boris Petrouchansky, à Imola, et je ne pouvais pas, en plus des concerts, voilà, j'avais décidé de voir plus qu'une personne, mais j'espère le revoir très prochainement.
C'est vos origines italiennes qui vous ont rattrapé ?
Je pense que oui, si je suis partie en Italie, c'est déjà parce que je parle italien et... J'adore l'Italie, donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais, déjà je mange bien.
Oh oui, ça c'est vrai. Moi je ne sais pas si vous mangez bien, mais on y mange bien en tout cas.
Voilà, avec mon prof russe, en fait, il me parle en italien. Et c'est surtout pour le professeur quand même, c'est pas parce que c'est l'Italie, c'est surtout pour Boris. Et d'ailleurs, si j'ai enregistré un disque russe, c'est sûrement dû à ma première rencontre avec un pianiste russe qui s'appelait Vladimir Viardot. Et une rencontre, c'était par hasard à l'Académie d'Aix en Provence. J'avais décidé de faire un stage il y a 5 ans, avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Il y avait mon prof dans le stage, mais j'avais décidé de faire ce stage avec quelqu'un d'autre. Et par hasard, j'avais choisi ce professeur russe qui m'a conseillé 2 ans après d'aller étudier avec Boris Petrouchansky en Italie. J'ai écouté son conseil et je me suis concentrée sur ce répertoire russe pour mon disque. Et je pense que ça m'a donné la confiance nécessaire et ça m'a apporté beaucoup de maturité pour interpréter ces pièces russes.
Le conservatoire permet aussi de faire des rencontres, de belles rencontres avec d'autres jeunes musiciens. Et souvent, des mariages heureux peuvent se faire, comme avec Thomas Chédal, l'accordéoniste du Spiritango.
Moi, j'ai rencontré Fanny il y a 5 ans, en fait, au conservatoire de musique, le CNSM, donc, en discutant ensemble, vraiment, ça a été une amitié. Et je lui ai proposé, en fait, de créer un groupe de tango aussi, parce que j'avais dans l'idée de monter un groupe de tango. Et elle s'est lancée dans l'aventure, donc...
Elle a eu des réticences ou tout de suite, comment elle a réagi quand vous lui avez proposé ça?
Alors au départ, un peu surprise, parce que c'est vrai que Fanny a une formation classique au départ, donc je pense pas me tromper en disant peut-être qu'elle n'avait jamais joué de tango vraiment avant. Mais je pense que ça l'a séduit justement de ce côté de pouvoir jouer un autre répertoire avec d'autres codes, d'autres manières d'aborder la musique. Et elle s'est lancée dans l'aventure, donc et depuis, elle n'arrête pas.
La fin de Primavera Porteña d'Astor Piazzolla avec Thomas Chédal à l'accordéon, Benoît Lévesque à la contrebasse et les deux Fanny, Fanny Gallois au violon et Fanny Azzurro au piano, extrait de votre disque Rage, la rage qu'on vient d'entendre. Thomas Chédal, l'accordéoniste du Spiritango Quartet, racontait il y a quelques instants cette rencontre, votre rencontre avec la musique du tango. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés au début ?
Oui, des difficultés parce que c'était un nouveau répertoire et que je connaissais pas forcément le style, parce que c'est un style tout très particulier, le tango. Donc bien sûr, C'est passé par, voilà, par beaucoup d'écoutes des versions de Piazzolla lui-même avec son quintet. Des difficultés aussi pour... Non, en fait, pas tellement de difficultés pour rencontrer les bonnes personnes. Parce que c'est, en fait, on a commencé avec un autre violoniste qui s'appelle Chrissy Jazzy, avec qui je joue toujours en duo violon-piano. Et Chrissy a dû partir et on a trouvé une violoniste fabuleuse, Fanny Gallois, qui a un son vraiment très chaleureux et qui convient tout à fait pour ce style de musique. Et donc, des difficultés... forcément pour lancer le groupe et pour trouver des concerts, mais pour répéter aussi, parce que maintenant, le contrebassiste est à l'Orchestre de Montpellier, donc au niveau du planning, c'est difficile. Sinon, c'est que du bonheur.
Ça marche comment, la musique de Piazzolla ? Est-ce que tout est écrit, par exemple ?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une liberté dans l'interprétation. Tout n'est pas écrit et on peut se permettre de faire beaucoup d'ornementations et même des improvisations. Ça c'était difficile, enfin en tout cas pour moi, parce qu'improviser j'ai jamais appris. Il faut savoir que Piazzolla jouait avec des musiciens de jazz très souvent quand même, donc c'est plutôt style jazz, les improvisations dans le tango. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on écrit nos propres cadences et que voilà, il y a beaucoup de libertés, beaucoup plus qu'on, enfin beaucoup plus, qui sont des libertés différentes par rapport à ce qu'on fait en musique classique.
Qu'est-ce qui vous plaît avant tout, finalement, dans cette musique? La liberté, la musique de chambre.
Le fait que ça soit une musique festive aussi, qui soit très dynamique, qui soit impulsive, voilà, rageuse.
C'est une musique de bordel au départ. J'ai vu que vous jouiez, excusez-moi l'expression, mais j'ai vu que vous jouiez dans des églises. Ça pose jamais de problème avec les curés.
Enfin, on est sage, on se tient quand même bien sur scène. C'est les vieux tangos qui étaient joués dans les bordels, oui, au début du XXe. Les tangos d'Astor Piazzolla se rapprochent quand même d'une écriture classique. Il a étudié avec Nadia Boulanger, on le sait, quand il avait une trentaine d'années.
C'était une petite parenthèse. Oui. Dans son quintet, il y avait, il me semble, une guitare. Et lui, il était au bandoneon. Là, c'est une autre formation. C'est à l'accordéon. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça change ?
Alors, pourquoi ? Déjà, parce qu'il n'y a pas de classe de bandoneon au conservatoire. Donc, je ne pouvais pas rencontrer le bandoneoniste facilement. Voilà. Et comme Thomas joue merveilleusement bien de l'accordéon, on n'allait pas lui demander de changer et de prendre un bandoneon. Et on avait entendu, c'est vrai qu'on savait que ça se faisait quand même à l'accordéon. Le groupe Soledad, par exemple, qui a enregistré, qui a une formation avec accordéon. Richard Galliano, qui a enregistré beaucoup de Piazzolla. Donc on savait quand même que voilà, ça s'était déjà fait. On n'avait pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, assez nouveau.
Vous avez un admirateur de choix, de très grand choix, qui a été professeur, qui a été également accompagnateur de Richard Galliano, mais aussi entre autres de Chet Baker, vous l'avez reconnu, c'est le grand pianiste de jazz. Hervé Célin, voici son regard sur le Spirit Tango Quartet.
Avec le groupe, je pense qu'ils ont trouvé une dynamique de ce qu'on appelle le groove, le time, qui venait pas seulement du travail, mais de cette manière de mettre ensemble des choses plus animales, avec le rythme, avec le battement de la musique que peut être le tango. Et c'est surtout là-dessus, moi, que j'ai vu évoluer Fanny aussi, qu'elle a pu trouver quelque chose de plus profond en elle, au point de vue rythmique et au point de vue battement de la musique. Et c'est ça qui est très important, sur lequel on n'insiste pas assez en classique. Et je pense que, et j'espère que ça a pu lui servir dans tout ce qu'elle joue par ailleurs, que ce soit la musique russe ou d'autres choses, puisqu'elle a fait un très beau disque là-dessus. Et j'ai senti qu'il y avait une énergie là-dedans qui venait sans doute du travail qu'elle avait fait sur le tango et sur cette manière de jouer d'autres musiques et de sortir de la sacro-sainte chapelle, quoi.
Voilà, je reviens sur ce que j'ai entendu parce que ça me touche énormément en fait. C'est un super compliment de dire voilà qu'on a, maintenant on arrive à groover et tout ça parce que, et peut-être mon choix de répertoire pour ce nouveau disque piano solo, c'est un choix de pièces qui sont très rythmiques également. Avec une dernière pièce d'ailleurs.
Dont on parlera dans un tout petit instant sur ce disque. Il y a les variations sur un thème de Corelli de Sergueï Rachmaninov et la sixième sonate de Sergueï Prokofiev, dont on a entendu un extrait tout à l'heure. Pourquoi précisément ce programme russe et ces œuvres-là ?
Alors je me suis posé la question avant de venir quand même.
Parce qu'il fallait que... Elle est venue pourquoi avec ses ce choix fiches.
Non, ça, il ne fallait pas le dire. Alors pourquoi ce choix En fait, la sonate de Prokofiev, je l'ai commencée il y a 4 ans à peu près. Et j'avais retrouvé la partition. En fait, c'était Olivier Gardon, prof au CNR de Paris, qui m'avait conseillé de travailler cette pièce en me disant « Je suis sûre que ça t'ira très bien. » Je connaissais la 7e sonate de Prokofiev, mais celle-là, non. Je ne l'avais jamais entendue. Et voilà, j'ai commencé à travailler cette sonate, qui était une grosse sonate. Et je suis allée jusqu'au bout du travail. J'ai eu l'occasion de le jouer en masterclass avec Dimitri Bashkirov au Conservatoire de Paris. Et il m'a fait un compliment. Il a trouvé que c'était très clair.
Ce qui est rare chez lui,
en plus. Peut-être ça m'a convaincue qu'il fallait que je garde cette pièce aussi, que j'arrive à la... Voilà, que je puisse la jouer en concert. Et je l'ai beaucoup joué en concert. Donc ça, c'était sûr que je voulais l'enregistrer. Et ensuite, il fallait des œuvres pour compléter ce programme, c'est pas suffisant. Et j'ai pensé à Rachmaninov, je l'avais beaucoup travaillé également, les variations Corelli. Et Capucine.
C'est sur la dernière page de ce disque, d'autres variations. Hervé Sélin parlait du swing il y a quelques instants. Bien ici, il y en a, c'est sûr.
Un extrait des variations opus 41 de Nikolaï Kapoustine par vous, Fanny Azzurro. C'est très intéressant ce morceau que vous avez choisi de mettre au programme de ce disque car je trouve qu'il vous ressemble. En tout cas, ça vous représente.
C'est vrai qu'on le dit souvent après les concerts parce que je le joue beaucoup en concert. Peut-être parce que je me sens à l'aise. C'est une musique très rythmique et on a forcément le fil conducteur du rythme du début à la fin en fait. Et j'arrive à être, en jouant cette pièce, à être concentrée du début à la fin en fait. Je bats du pied, je souris en jouant cette musique parce que Voilà, ça me, voilà, j'adore. Enfin, j'adore le jazz et je sais pas en jouer. Et en fait, c'était l'occasion de moi de jouer du jazz, parce que tout est écrit sur la partition.
Je voudrais juste quand même préciser pour nos auditeurs, parce que on ne connaît pas forcément Nikolaï Kapoustine. Et si ça nous fait penser à vous, c'est parce que c'est un compositeur russe et qui est aussi bien calé en fait dans le grand répertoire pour piano virtuose que dans le jazz et que dans l'impro.
Oui.
Mais c'est fou parce que, en fait, il y a énormément de musiciens classiques qui nous disent ça. C'est-à-dire la difficulté de sortir d'une partition.
Du cadre.
Comment ça se fait ?
C'est peut-être que quand on est jeune, on ne nous apprend pas.
Vous avez toute la vie. Hein.
J'ai toute la vie.
Vous avez toute la vie et puis vous faites la différence, notamment en jouant du jazz. Et il y a beaucoup de pianistes dans le milieu. Il y a beaucoup de pianistes français qui sortent du conservatoire et qui commencent à avoir une carrière. Qu'est-ce qui fait que vous, vous allez sortir du lot ?
Je pense que quand on veut quelque chose, on arrive à l'avoir. Alors, ça prend du temps, il faut être patient. Il ne faut pas tout vouloir tout de suite. Et d'ailleurs, je n'ai jamais tout voulu tout de suite. J'ai commencé à passer des concours sur le tard. Je n'en ai pas passé énormément non plus. J'ai commencé à me produire sur la scène tard. Je prends mon temps, un peu moins en ce moment, cette année est chargée. Mais... je pense pour réussir, il faut prendre son temps et beaucoup travailler. Parce que le travail, voilà, c'est la base de toute réussite.
Puis il faut du caractère aussi. J'ai l'impression
et
que vous
du
en
caractère,
avez.
Oui. Ouais, je suis une battante comme ma mère. Je pense que ma mère aussi est...
On parle de votre caractère. Il y a une autre personne qui nous en a parlé. C'est un autre des membres du Spiritango. C'est Benoît Lévesque. On écoute.
Ce qui est bien dans le groupe, c'est qu'il n'y a absolument aucune retenue. C'est-à-dire que... on laisse jamais les choses pourrir, c'est-à-dire on se dit toujours les choses franchement et directement, bon parfois un peu trop directement, mais on s'engueule un bon coup et puis après c'est fini. Bon après c'est sûr que je pense que moi et Fanny, on est peut-être les deux plus sanguins du groupe, ça c'est bien possible. Il arrive fréquemment que ce soit entre elle et moi qu'il y ait des bisbilles, mais voilà, enfin je veux dire en même temps, le fait qu'on ait quatre caractères bien affirmé dans le groupe, ça permet aussi musicalement de créer de belles choses parce que justement, à la fois, on arrive à créer une fusion tous ensemble, mais aussi, on existe chacun et chacun, on a des choses à dire. Il n'y a personne qui se laisse manger, entre guillemets, et on a chacun notre individualité musicale et des fois, c'est violent, des fois, on s'engueule, mais des fois aussi, il y a des grands moments de beauté et de tendresse et c'est beau.
Eh bien, ça a l'air chaud, les répétitions du Spiritango.
Oh, ça saigne pas non plus. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est, ce qu'il dit, c'est très, très juste. C'est vrai qu'on se dit tout. Donc, la plus belle qualité des membres de notre groupe, c'est on est honnête, on est sincère, on est spontané, des fois trop. Mais du coup, on se dit tout. Peut-être on se dit trop de choses, mais en tout cas, c'est grâce à ça qu'on avance. Et,
mais qu'est-ce que c'est sur des idées musicales, par exemple?
Sur des idées musicales, ça peut être tout simplement. Ouais. On peut se.
Ça mais peut on apprend. Sur l'organisation d'un groupe, parce
l'organisation
qu'il faut vivre ensemble
d'un groupe,
en tournée.
C'est vrai, mais il faut savoir faire des concessions. Ce que ça m'apporte, c'est aussi d'accepter les critiques pour rebondir, c'est-à-dire voilà, personne n'est parfait, personne n'est meilleur que l'autre, on est tous au même niveau, et c'est ça qui nous fait tous progresser aussi.
Benoît Lévesque, le contrebassiste qu'on entendait, et Thomas Chédal, l'accordéoniste, et Fanny Gallois, la violoniste, et Fanny Azzurro, la pianiste. Les voici, mais dans autre chose, et oui, autre chose qu'Astor Piazzolla.
Thank you.
Le troisième mouvement de Gemini de Frédéric De Vries avec le Spiritango Quartet, c'était le mois dernier au Festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon, concert enregistré par France Musique et que vous pouvez réécouter en intégralité jusqu'à mercredi sur francemusique.fr sur la page de notre émission Leur belle saison. Alors, qui c'est ce Frédéric De Vries ? Il y a une autre vie que Astor Piazzolla pour le Spiritango ?
Eh oui, on ne fait pas que du tango. D'ailleurs, je pense qu'on va garder le nom Spiritango, mais c'est vrai qu'on se posait des questions parce que, sur le nom du groupe, parce qu'on souhaite ouvrir le répertoire à d'autres pièces très rythmiques, mais pas forcément assimilées avec le tango. Et là, c'est une pièce qu'on a trouvée. En fait, l'accordéoniste du groupe connaissait très bien les enregistrements du groupe Soledad, qui avait enregistré des pièces de Frédéric De Vries. C'est comme ça qu'on a connu De Vries. Et on a écouté ces pièces, on a adoré, on a commandé les partitions. Là, on a moins adoré, s'il y avait beaucoup de notes. En fait, c'est un compositeur, je pense, qui est passionné de piano. Il a beaucoup écrit pour piano. D'ailleurs, cette pièce, Gemini, a été d'abord écrite pour... C'est une suite pour deux pianos. Et les parties de piano et accordéon sont très, très fournies, très denses. Et donc, ça a été un gros travail, rien à voir avec Piazzolla, enfin, en tout
compositeur
cas pour moi.
D'aujourd'hui, compositeur
belge, qu'on a eu la chance de rencontrer au Festival de Radio France de Montpellier en juillet dernier. Il est même monté sur scène et on a pu échanger et lui poser... les questions qu'on avait à lui poser.
Ça doit être une sacrée pression quand même de jouer devant le compositeur.
Alors, c'était une sacrée pression, mais c'était aussi une sacrée pression de jouer devant 1200 personnes ou plus.
Micros de France Musique.
Les micros de France Musique. Donc, il y avait beaucoup de pression ce jour-là. On est très fiers de ce qu'on a fait, même si on est toujours très critique. On a eu un accueil par le public très chaleureux. Et ces concerts à Montpellier ont été très marquants.
Soliste, formation de chambre, est-ce que vous vous posez la question de l'orientation de votre carrière, Fanny Azzurro ? Est-ce que vous craignez de brouiller les pistes, peut-être ?
Je me pose la question, bien sûr, parce que c'est... au niveau de mon planning, ça commence à être compliqué. Mais je veux jouer en solo et je veux continuer à jouer avec le Spiritango et avec d'autres formations de musique de chambre. Je pense que les deux sont très importants pour moi, mais c'est vrai qu'il faudra, je pense, que je refuse des concerts peut-être l'an prochain.
Il faut trouver sa voix. Voici les conseils de deux voix, deux sages que l'on a déjà entendus, deux professeurs, Dominique Merlet, puis Hervé Célin. Écoutez-les attentivement, Fanny.
Ce qui m'inquiète un petit peu, je trouve qu'elle fait énormément de choses. Et, enfin, ça, c'est à la fois dans sa nature et un choix. Mais elle a peut-être raison, hein, ça correspond en tout cas à sa nature.
Il y a la musique, il y a la carrière, mais il y a aussi la réalité du marché, comme on dit. Mais elle a une énergie qui est assez peu commune. Moi, je pense qu'il faut qu'elle continue dans cette voie-là, toujours avec cette exigence. Ça n'empêche pas d'être profondément ancrée dans la culture classique et dans le répertoire et dans la tradition. Maintenant, tout ce qu'elle pourra proposer de différent, hein, on a aussi fait un programme où, au-delà du tango, on mélange aussi avec un quartet de jazz et à deux pianos, un classique, un jazz. Donc je pense que c'est la voix.
Vous en pensez quoi, Fanny ? C'est la voix ?
Je pense que les deux sont compatibles. Comme le dit Dominique Merlet, c'est vrai qu'il faut faire attention. C'est ma nature, en fait, je suis impulsive. C'est comme le nom de mon disque, Ocean Impulse. Peut-être c'est inconsciemment j'ai choisi ce titre parce que voilà, j'accepte beaucoup de choses, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets. Peut-être je m'éparpille un peu, mais en général, quand je souhaite quelque chose, je vais jusqu'au bout de mes idées et j'arrive à le réaliser. Donc maintenant, si je souhaite m'économiser et voilà, refuser certaines propositions et prendre du temps pour monter du nouveau répertoire en solo, je le ferai.
Et dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est pareil ? Est-ce que vous éparpillez un peu partout ? Est-ce que vous avez plein d'autres passions ?
Alors, j'adore le jazz, comme j'ai dit. J'adore aller au cinéma. J'ai rencontré mon copain dans le métro. Alors, je ne sais pas si c'est...
C'est une vraie
partition. Mais là, il faut nous en dire plus. Vous pouvez pas dire ça comme ça en fin d'émission, en 10 secondes.
Non, mais... Je dis ça peut-être, voilà, je
dans le côté
impulsive. Et j'ai beau, voilà, je suis.
Mais comment ça, on rencontre son copain dans le métro, c'est du jamais vu, ça, c'est un film.
Oui, et d'ailleurs, on va se marier. Mais bon, ça, c'est.
Ah bah, félicitations, on a un scoop, merci. Félicitations.
Mais désolée.
Avant de nous quitter, vous parliez du jazz. Nous allons écouter un titre que vous vouliez partager avec nos auditeurs. Il s'agit de Misty, Errol Garner. Alors, on danse, Fanny ?
Avec Misty, c'est plutôt très sensuel et on a envie de se mettre sur un divan et de rêver.
Allez, avant de vous quitter quand même les dates de vos prochains concerts, on vous retrouve la semaine prochaine dans le Nord, au Touquet, les 24 et 25 août, avec Spiritango et en récital. Le mois prochain, entre autres, à l'église de Puteaux, c'est pour ça que j'ai parlé d'église tout à l'heure, avec Spiritango le 21 septembre. Et puis en tournée tout cet automne à Dubaï, à Shanghai, à Abu Dhabi avec l'Alliance française. C'était la belle saison de Fanny Azzurro. Merci Fanny.
Merci à vous.
À la console aujourd'hui, il y avait Eric Boisset. C'est Géraldine Prutner qui a réalisé cette émission et c'est Pauline Boisaubert qui a fabriqué notre superbe page internet. Au revoir Nicolas Lafitte, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Jean-Baptiste. Il est 19h sur France Musique. Bonjour Jérémy Rousseau.